Attends, c'est du verre quoi? Du verre canard?
Si vous voulez, le verre des verres correspond, comme par hasard, au verre de l'islam.
Ou un verre sapin?
Bonsoir, Michel Sapin.
Verre émeraude. Ou peut-être verre bouteille.
Il n'y a plus rien à boire.
Du verre pomme? Ah, je sais. Verre kaki.
Calmez-vous! Et calmez-vous!
Non, non, je vois. Je sais.
Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir.
Mais attendez, vous,
non,
vous trouvez
oui.
ça normal?
C'est du verre bouteille!
Allez-vous cultiver scientifiquement?
Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème.
Retraite, climat, même combat.
Bonjour, c'est Lucie, je suis journaliste indépendante en Bretagne et chaque mois sur Canal B, Radio Boa et Deezer, je vous parle d'écologie pendant une heure. Un programme un peu comme un porte-voix pour mettre en lumière celles et ceux, chercheurs, citoyens, élus ou encore médias, qui font vivre les transitions écologiques et sociales en mode déter. Et alors que le sujet recule dans les médias, eh bien on continue à en parler dans les médias indépendants et à l'antenne des radios associatives. Actualités, interviews, reportages, mais aussi ressources, parfois agenda et musique évidemment, c'est le programme de Vers des Terres, une émission qui est réalisée bénévolement, je le précise, et qui se part, en ce mois d'avril, de ce beau vert gazon qu'on trouvait, rappelez-vous, sur les bidons de Roundup en magasin jusqu'en 2019. Il paraît qu'on en trouve toujours en ligne, tiens d'ailleurs. Dans cette émission, on va donc s'intéresser aux maladies provoquées par des facteurs environnementaux. Monde moderne, maladie de merde, c'est parti. Et comme toujours, on commence avec l'info repérée pour vous dans l'actualité à la rubrique écologie. Vous êtes peut-être passé à côté, le 7 avril se tenait un sommet dédié à la santé globale et porté par le président de la République, Emmanuel Macron. Objectif, améliorer la coopération internationale pour inciter, entre autres, à la lutte contre les maladies infectieuses en insistant sur le lien entre la santé humaine, animale et environnementale. Ces mots, on les retrouve dans un article de Reporter qui en a profité pour interroger l'épidémiologiste Kevin Jean sur ce concept de One Health, une seule santé ou santé globale. Alors ce concept d'une seule santé, c'est quoi? Eh bien, il lie étroitement la santé humaine à celle des animaux et de l'environnement. Le chercheur cite l'exemple de la dengue ou du chikungunya qui se diffuse en France, véhiculé par le moustique tigre. Or, le saviez-vous, la propagation de ce moustique originaire d'Asie du Sud-Est est liée au commerce international de pneus usagés, qui constitue en fait un lieu favorable à la ponte de ses œufs. Et puis le réchauffement climatique file un petit coup de pouce aux moustiques en prolongeant la période de piqûre et de reproduction. Au sujet du sommet qui a été organisé par l'État français, le constat de ce chercheur, c'est que, je cite, « le politique a tendance à se saisir du terme « à tout va », il y a presque une sorte de « one health washing ». Et le problème avec ce concept d'une seule santé, c'est qu'il se concentre surtout sur les maladies infectieuses sans intégrer les pathologies chroniques et les maladies métaboliques, citons le cancer et le diabète. Résultat, le reste des facteurs environnementaux, comme la pollution de l'air ou les pesticides, on va en parler longuement dans cette émission, eh bien se retrouvent invisibilisés. Le chercheur à l'École normale supérieure de Paris, Kevin Jean, développe ensuite les bénéfices à mettre en lien de façon donc plus large santé et climat, en rappelant au passage le caractère profondément antisocial des effets du changement climatique. Je cite « les populations moins favorisées sont davantage vulnérables ». Il faut donc que les mesures de transition soient perçues comme justes, et puis il termine avec un focus sur l'alimentation et identifie notamment la restauration collective comme un bon moyen d'agir en faveur de l'environnement et de la santé, puisque réduire sa consommation de viande, c'est à la fois moins de gaz à effet de serre et puis un risque de cancer diminué, on pourrait par exemple imaginer l'inverse de ce qui se fait habituellement, proposer par défaut une assiette végétarienne et qu'il faille faire l'acte de demander de la viande si vraiment on en souhaite. Notre santé est étroitement liée à celle des animaux et de l'environnement, c'est le titre de l'article de Reporter que je vous conseille de lire et qui est à retrouver dans son intégralité en libre accès en ligne. Et après cette info, c'est le moment de l'entretien long format de cette émission. Bonjour Pierre Souvet.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes médecin cardiologue pas très loin de Marseille, dans le sud de la France, et vous êtes l'un des cofondateurs et aujourd'hui président de l'ACEF, Association Santé Environnement France. Il paraît qu'on vous surnomme même Monsieur Cadmium, vous en pensez quoi de ce surnom?
Oui, parce que c'est évidemment c'est un sujet qui nous alerte depuis 2021, qui a aussi alerté Santé Environnement France, mais qui n'a pas pu faire remonter. Et donc, on s'est mis avec mes collègues, il n'y a pas que moi, à lire la plupart des 17 900 études qui existent dans la Bibliothèque mondiale médicale sur la toxicité du cadmium. Et toutes sont unanimes, c'est vraiment un agresseur extrêmement puissant. Et d'ailleurs, il y a une étude américaine qui compare plus de 38 perturbateurs endocriniens, parce qu'outre qu'il est cancérigène, il est perturbateur endocrinien. Et c'est le pire de tout. Ça a été comparé à des pesticides, à des hydrocarbures, à de l'arsenic, et aussi cancérigène, à du biphénol, des phtalates. C'est le pire en termes particulièrement de mortalité et de mortalité par cancer. Voilà. Je ne vous dis pas tout, parce que sinon ça va vous déprimer. Mais vraiment, il faut qu'on agisse, quoi.
Avec votre association, vous vous intéressez en fait plus largement au lien entre santé et environnement. Pour commencer, je voulais citer cette étude qui a été publiée en février et puis médiatisée par le Centre international de recherche sur le cancer, qui a listé 30 facteurs dits modifiables qu'on retrouverait impliqués dans 40% des cancers à l'échelle mondiale. Avant de revenir sur le cadmium qui est médiatisé en ce moment et dont on a besoin de parler et d'informer les auditeurs, plus largement, quels sont vous les facteurs, les premiers responsables, les plus évident sur le lien santé-environnement et qu'on peut remettre en avant là auprès des gens qui nous écoutent.
Alors, il y a une publication extrêmement importante des quatre grandes sociétés mondiales de cardiologie qui a eu lieu tout récemment, qui dit qu'il faut absolument réduire l'exposition aux facteurs environnementaux par des décisions politiques d'abord, parce que c'est pas vous qui êtes responsable. Je donne toujours cet exemple. Quand vous êtes soumis à trop de pollution, on a du mal à réagir parce qu'on ne la voit pas forcément. On a l'impression que les pathologies vont survenir plus tard. Quand vous voyez une voiture arriver sur vous, c'est pas votre faute non plus, hein. Mais vous avez un réflexe tout de suite. Vous protégez, vous vous écartez. Ben là, c'est la même chose. Vous ne pourrez pas tout changer parce que ça passe par des décisions politiques, mais vous pourrez vous protéger. Et ces agences de cardiologie nous disent que sur 20 millions de décès cardiovasculaires dans le monde, entre 9 et 12,6 millions, c'est-à-dire plus de la moitié, sont dus à des facteurs de risque environnementaux. Et le troisième élément, il nous dit qu'il faut sensibiliser le public, ben c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, et former les professionnels de santé, et là c'est très important, à ces facteurs de risque environnementaux, au même niveau, je répète, au même niveau que les facteurs de risque traditionnels tabac, alcool. Donc, tous les professionnels de santé doivent les connaître. Pollution de l'air, pollution chimique, puisque, évidemment, vous avez aussi le bruit, vous avez aussi la canicule. Et en fait, personne ne le sait, on meurt du cœur en premier, de décompensation cardiaque. C'est pour ça que ça touche surtout les personnes âgées. Et là aussi, personne ne le sait. Mais les deux gros éléments, ce sont les pollutions chimiques et les pollutions de l'air. Ces pollutions tuent plus que le tabac actif et passif dans le monde. J'ai des gens qui me disent ah, « ça me donne envie de fumer ». Bien sûr que non, hein. Bien sûr que le tabac reste aussi une priorité. Mais les pollutions, c'est la première cause de mortalité dans le monde.
Justement, pour faire le lien avec votre spécialité, la cardiologie, il y a eu cette communication de l'Agence européenne de santé en fin d'année dernière. Un décès sur cinq lié à une maladie cardiovasculaire pourrait être évité avec un environnement plus sain. On comprend donc qu'il y a la pollution de l'air là, et puis la pollution chimique que vous évoquez qui rentre en jeu particulièrement lorsqu'on parle de la santé du cœur. Est-ce qu'on pourrait résumer par quel mécanisme ça passe pour les gens qui ne sont pas spécialisés en médecine ?
Alors, c'est les cœurs et le cerveau, les accidents vasculaires cérébraux, donc les ischémies cardiaques qui conduisent à l'infarctus. En gros, tous les polluants, quasiment à peu près le même processus, il entraîne une oxydation. C'est-à-dire que c'est un corps étranger, comme les polluants chimiques, une oxydation qui fait que, mais du coup, par exemple, votre cholestérol, le mauvais cholestérol, va s'oxyder. Et s'il est oxydé, il va aller commencer à boucher l'artère. Votre bon cholestérol, lui, il a une mission, c'est empêcher le mauvais cholestérol de s'oxyder. Mais les pollutions chimiques ou de l'air oxydent aussi le bon cholestérol. C'est pour ça que même si vous en avez beaucoup qu'il est oxydé, il ne va pas empêcher le mauvais cholestérol de s'oxyder et de boucher les artères. Donc d'abord une oxydation qui produit ensuite une inflammation plus générale. Et on appelle ça, c'est compliqué, la dysfonction endothéliale, c'est-à-dire que la paroi des artères s'abîme. Les molécules qui font les caillots se mettent en route et donc il y a plus de ce qu'on appelle des thromboses. Et ensuite, il y a une activation, ce qu'on appelle du système sympathique. Alors, il n'est pas sympathique, le système sympathique, c'est quand vous avez une émotion, votre cœur s'accélère. Mais c'est ça, ça favorisera à ce moment-là quand il y a des perturbations rythmiques de votre cœur, ben, des troubles du rythme, etc.
Alors, l'association Santé Environnement France, vous l'avez créée avec d'autres professionnels de santé, c'était en 2008, ça fait donc bientôt 20 ans. Ce qu'on voit avec ces études, c'est qu'il y a des déterminants environnementaux et notamment alimentaires, donc on va arriver tranquillement vers le sujet du cadmium, qui peinent encore à être pris en compte, faute de données, lit-on en tout cas sur Le Monde, au sujet de l'étude du Centre international de recherche sur le cancer. Je voulais vous demander si vous vous sentiez quand même, quand on revient en arrière là sur l'histoire, est-ce que vous sentez plus écouté qu'il y a 20 ans au moment du lancement de l'association?
Ben, on l'a lancé parce qu'on travaillait tous autour de l'étang de Berre où il y a 40 usines Seveso et plus. Et quand on disait que les rejets atmosphériques c'était toxique, on nous disait non, c'est pas toxique. Et on voyait bien qu'il y avait plus de pathologies, notamment cardiovasculaires, puisque c'est le premier contributeur, et certains cancers notamment. C'est pour ça qu'on s'est dit on va essayer de faire quelque chose. On est parti à trois autour d'une table dans une soirée. Et j'ai donné mon premier topo au cardiologue, même l'année d'avant, 2007, quand je leur ai donné les études américaines, qui existaient déjà, sur la pollution de l'air et la mortalité cardiovasculaire. Ils m'ont regardé avec des gros yeux ronds, en me disant, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Donc depuis, ben, évidemment, il y a une multiplicité d'études, surtout à l'étranger, faut pas le cacher. Mais pour ça, il faut aller lire la littérature mondiale, dans notre fameuse bibliothèque mondiale, s'appelle PubMed, où toutes les études sont colligées. Et pour vous donner un exemple sur l'alimentation, c'est assez frappant. Sur le bio, par exemple, nous, on se base sur une grande analyse de 343 publications qui dit qu'en moyenne, il y a 48% de moins de cadmium dans le bio. Et donc, on a colligé toutes les études qui étaient sorties depuis cette analyse globale, notamment une vingtaine. Il y en a eu 12 en Europe, aucune en France. Et donc, vous voyez que si vous n'allez pas chercher ce qui se passe ailleurs, ben vous manquez d'informations. J'ai fait un cours, le premier cours en France, aux internes cardiologiques, grâce au doyen de la faculté de médecine de Marseille, qui a dit les cardiologues doivent, en effet, les futurs cardiologues, connaître ces facteurs de risque qui influent particulièrement sur la santé cardiovasculaire, mais aussi sur les cancers. Eh bien, j'ai été frappé par le fait qu'on part de très, très loin. Ils sont dans la technicité, le soin immédiat, mais sur la vision globale que doivent avoir maintenant les pros de santé. C'est pas seulement « Ah, vous avez mangé salé, est-ce que vous marchez un peu, je vous dose de cholestérol et je vous prends l'attention. » C'est « Où est-ce que vous habitez, qu'est-ce que vous mangez, dans quelles conditions vous travaillez ?» C'est cette vision globale qu'il faut avoir dorénavant du patient. Ça rejoint « One health, une seule santé voilà. ». Et d'ailleurs, ce concept de seule santé, cette interdépendance entre les santé animale, végétale et humaine, elle est reprise par, et ça aussi c'est une définition qui me plaît beaucoup, par les quatre grandes organisations mondiales, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé animale, les Nations unies et l'Organisation mondiale de l'agriculture, qui dit que la santé doit être pensée comme un bien commun entre tous les vivants. Voilà, et donc, tous les vivants, c'est tout ce qui nous entoure, donc il faut ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, et prendre l'individu dans son entièreté, dans son cadre de vie, et pas seulement organe par organe.
On arrive à ce qui est présenté comme la bombe sanitaire du moment, donc le cadmium, un élément chimique qui est naturellement présent dans le sol et qu'on retrouve notamment et fortement dans la composition des engrais phosphatés utilisés comme fertilisants dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus de ce métal que, je pense, beaucoup de Français et de Françaises ont découvert par la médiatisation importante du sujet ces dernières semaines et derniers mois?
D'abord, il a une capacité, c'est qu'il reste dans votre corps, il s'accumule tout au long de votre vie. Si vous en prenez un verre aujourd'hui, il faudra 30 ans pour en éliminer la moitié. Donc, vous voyez que le problème, il est là. Il s'accumule et il donne plein de pathologies au cerveau, aux reins, au système cardiovasculaire. Il favorise des cancers, la fertilité, le foie. Enfin, donc, il est tous azimuts. Et c'est ça qui fait sa gravité. Une accumulation est tous azimuts. Les Français sont plus contaminés que les pays similaires. 2 à 3 fois plus que les Américains, par exemple, les Italiens. Et les enfants, c'est pire 3 à 4 fois. Alors, on connaît les gros concentrateurs, donc bien sûr les huîtres, les abats, puisque le cadmium va, au bout d'un moment, se mettre dans votre foie et dans vos reins. Mais aussi les biscuits salés, les biscuits sucrés, les céréales du petit déjeuner, et chez les adultes, le pain et ses dérivés. Enfin, c'est tous les dérivés de céréales et pommes de terre en premier, 20% quasi. Et donc, on vous a dit, c'est bon de manger des céréales au petit déjeuner. Le problème, c'est que, et là, c'est pas votre faute, mais il faut agir. C'est que ces céréales sont trop riches en cadmium, Parce que, évidemment, quand il est dans le sol, on l'a enrichi en mettant ses engrais avec des teneurs trop élevées. À titre anecdotique, la France autorise 90 mg par kilo de cadmium dans un kilo d'engrais phosphaté, alors que l'Europe est déjà à 60 et que certains pays européens sont déjà à 20 mg kilo, dose que recommande notre agence sanitaire nationale depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il ne s'est rien passé, alors que notre agence sanitaire a dit il faut passer à 20 progressivement, mais dans les meilleurs délais. Et là, elle a remis le couvert en disant si ça ne se fait pas rapidement, les Français en paieront le prix sanitaire. Donc nous, depuis 5 ans, on alerte, mais on n'a pas la capacité médiatique. Mais là, une alerte de l'ANSES, une deuxième alerte de l'ANSES. Et la presse, parce que c'est grâce à la presse que ça sort, enfin, il faut agir. Voilà. Donc il faut des décisions gouvernementales fortes. Et on n'est pas sur le chemin parce que le gouvernement a annoncé qu'il pensait en 2038 passer à cette dose de 20 mg, alors que par exemple la Hongrie, vers 2015, est déjà passée à 20 mg. Nous, c'est 23 ans de plus. Donc c'était tout à fait inacceptable, ce délai. Mais en attendant, il faut qu'on prenne soin de soi, il faut qu'on se protège. Et donc, je pourrais vous donner quelques conseils pour limiter, on ne pourra pas tomber à zéro, hein, mais pour limiter votre exposition.
Avant d'arriver à ces conseils, redire que donc la dernière étude qui a relancé le sujet, c'était fin mars, venait de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, et qui révélait que près d'un adulte sur deux en France dépasse les seuils de sécurité en cadmium, avec derrière, vous l'avez évoqué, hein, mais des enjeux de santé importants. On suspecte notamment que ce cadmium, trop présent dans les sols et dans notre alimentation, participerait à l'augmentation des cas de cancer du pancréas chez les jeunes. On sent que, il y a des pincettes qui sont prises à certains endroits. Quel est votre discours là-dessus, vous ? Il y a un consensus, en tout cas, sur les risques liés au cadmium, même s'il y a des choses qu'on ne fait que suspecter.
Bon, alors deux choses. D'abord, le cadmium a la capacité, un, d'altérer votre ADN et d'altérer la réparation de votre ADN. Donc déjà, ça peut favoriser les cancers. Il est capable d'altérer ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire quand une de vos cellules doit mourir pour se renouveler. Quand elle meurt, elle ne peut pas se transformer en cellule cancéreuse. Eh bien, le cadmium est capable de perturber ça, ce qui fait que si la cellule en mauvais état n'est pas détruite, elle peut se transformer en cellule cancéreuse. Ensuite, elle a un gros stress oxydatif. Et ça aussi, ça favorise la fabrication de cellules cancéreuses. Le cadmium détruit vos défenses antioxydantes. Et donc, c'est vraiment un cancérigène certain, mais majeur. Il n'est pas seulement lié au pancréas, il est lié au poumon, au sein, à la prostate, parce qu'il est aussi perturbateur endocrinien et une activité œstrogénique. Il est lié au cancer du rein, et il est lié potentiellement au cancer de la vessie, et j'ai même vu des études sur l'ovaire, l'endomètre. C'est vraiment un cancérigène extrêmement puissant. Et sur le pancréas, il est sorti une méta-analyse l'année dernière qui nous dit que plus vous avez de cadmium, plus vous avez de risque d'avoir un cancer du pancréas. Et il y a un professeur Gauthier d'Amiens, qui a un laboratoire qui étudie le cancer du pancréas, qui a montré dans une publication en février que pour la première fois, il avait identifié l'excitation d'un canal qui va stimuler la fibrose des cellules qui peuvent se transformer en cellules cancéreuses. Et il nous dit clairement, comme les autres études, que le cadmium est un facteur de risque de cancer du pancréas. Ça n'est pas le seul, évidemment. Tous les fumeurs n'ont pas un cancer du poumon, heureusement, mais ça augmente ce risque. Et bien pour le cadmium, c'est pareil, ça augmente ce risque.
Alors, vous alertez depuis un moment maintenant. Je crois qu'il y a un ensemble de textes réglementaires là, qui a été transmis au Conseil d'État qui devrait rendre des conclusions au mois d'avril, donc normalement sous peu. Comment vous expliquez que la réaction soit si longue ? Vous avez évoqué peut-être des problèmes de formation, d'information. On imagine qu'il y a des enjeux de financement et peut-être aussi des formes de pression qui pourraient venir de groupes économiques, peut-être, qui ont des intérêts sur ces sujets-là. Mais en tout cas, comment vous expliquez que la réaction soit si lente ? Est-ce que vous avez aujourd'hui encore l'espoir d'une réaction des pouvoirs publics pour abaisser ces seuils réglementaires de cadmium dans les engrais phosphatés ?
Déjà, s'il ne l'abaisse pas dans un délai raisonnable en écoutant ce que dit notre agence sanitaire depuis 5 ans, c'est irresponsable. C'est dénier, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas construire une politique de santé du pays en appliquant un déni de ce que nous disent nos scientifiques. Et ce que moi, j'ai vu sur toutes les études qui sont sorties depuis, parce que depuis trois ans, par exemple, il y a eu 3000 études de plus qui sont sorties sur la toxicité du pancréas, c'est pour vous dire. Donc, faire une politique en disant, je dirais à la Trump, en disant non, la science dit n'importe quoi, c'est pas possible. Moi, il y a 3 ans, j'étais à l'Élysée, j'avais rencontré le conseiller politique étrangère du ministère de l'Environnement et j'avais dit, mais puisque vous voulez, pour des raisons géopolitiques, continuer à travailler avec le Maroc, dont les engrais sont hélas trop riches en cadmium, mais aidez-les à enlever ce cadmium, ce qui est possible techniquement. Ça réclame juste un surcoût que certains chercheurs de l'INRAE estiment à 2 euros à l'hectare pour les céréales. Donc j'aurais dit, mais aider à la limite les agriculteurs à compenser ce petit surcoût hein, qui est modeste par rapport à l'intérêt sanitaire. Eh bien, il ne s'est rien passé depuis. Donc, on suppute qu'il y a en effet des groupes de pression qui essaient de freiner les choses. A priori, le Maroc a commencé. Donc, je sais qu'ils font des efforts. Ben, il faut les aider si on veut garder ce fournisseur. Bon, sachant que sinon, ben, il faut aller en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Afrique du Sud pour chercher les engrais phosphatés. Donc, voilà, c'est un problème géopolitique, un problème économique. Et qui est des groupes de pression que je ne connais pas, qui aient voulu ralentir le processus. Bon, ben, on peut le supposer.
Les auditeurs peuvent retrouver en ligne, s'ils veulent aller plus loin sur le sujet du cadmium au Maroc, il y a un article de Vert, le média qui annonce la couleur, qui est sorti il y a quelques jours, signé de la journaliste Anne-Claire Poirier. Comment la France a financé la contamination des terres africaines au cadmium? Je laisserai les auditeurs aller le retrouver en ligne. En attendant des changements qui se font attendre, là, qu'est-ce que vous dites à vos patients qu'on imagine inquiets, en sachant donc qu'il est impossible d'éviter totalement le cadmium dans notre alimentation, que c'est très long à éliminer de l'organisme, et on le redit, donc ce cadmium, on le retrouve particulièrement dans les produits céréaliers, dans les pommes de terre et dans d'autres produits que nous consommons de façon très quotidienne. Vous leur dites quoi? Il y a des bons réflexes à avoir.
Ouais, donc on peut agir et il faut agir. Premièrement, chez les femmes. Les femmes sont plus contaminées que les hommes, mais nettement plus, c'est à peu près 30%, parce que dans l'intestin, vous avez une protéine qui fait pénétrer les métaux dans le corps. Et si les bons métaux, comme le fer, le zinc, sont absents, eh bien c'est le cadmium qui prend la place. Or, vous avez 25% des femmes en âge de procréer qui ont des déficits en fer. Donc, il faut lutter contre les déficits en fer. Il faut doser la ferritine et voir avec votre médecin comment compenser. Il faut compenser. Sur le zinc, là aussi, s'il y en a moins dans l'intestin, donc le cadmium prend la place, c'est moins prégnant comme déficit que le fer, évidemment. Mais à l'intérieur de notre organisme, dans le foie, il est capable de créer une protéine qui va fixer le cadmium et inhiber sa toxicité. Donc, il faut avoir des bons statuts en zinc. Là aussi, tout ça ne se fait pas au hasard. Je ne prends pas des compléments comme ça. Je gère ça scientifiquement avec mon médecin. Ça se dose, le fer de zinc. Et si j'ai un déficit, j'adapte les prises en fonction, mais pas au hasard, pas n'importe comment. Sur les aliments, donc je prends toujours l'exemple, si vous faites le premier jour les pommes de terre bouillies, le deuxième la purée et le troisième les frites, les pommes de terre, c'est 20% de la contamination des adultes et quasiment autant de l'enfant. Donc, il faut trouver des alternatives. Donc, nous, sur notre site, nous avons fait des fiches pour les gens pour leur donner justement ces alternatives. Par exemple, c'est bien sûr les légumineuses, c'est riche en fibres, ça diminue l'absorption. Donc, bien sûr, nous parlons pois chiche, nous parlons haricots blancs, nous parlons fèves. Pour le petit déjeuner, on va dire, on va parler des enfants, et du goûter. Là aussi, on a mis des astuces. Si vous mettez le gros bol de céréales, surtout du blé, tous les matins, eh ben, c'est plus facile pour vous, mais ça va beaucoup contaminer le petit. Et donc, vous pouvez mettre d'autres céréales moins contaminées comme l'avoine, mais toujours avec modération, donc plutôt bio, parce que je l'ai dit au début, le bio est potentiellement moins de résidus de pesticides, c'est plus d'éléments nutritifs et c'est 48% de moins en moyenne de cadmium. Donc, si vous basculez sur d'autres céréales, c'est mieux, mais avec modération et plutôt bio. Eh bien, vous proposez, par exemple, le matin, on va goûter un fruit, une compote. À la limite, s'il n'y a pas de céréales, un petit morceau de pain. Alors là, c'est pareil. Si vous voulez éviter le blé plus contaminé, vous allez prendre plutôt du seigle, par exemple. Au goûter, c'est pareil. Si vous mettez biscuit sucré systématique, ah, ben tiens, voilà ton biscuit. Là, c'est pareil. Vous pouvez mettre un petit morceau de pain, plutôt de seigle, sarrasin, par exemple, quinoa, avec un petit morceau de fromage, un fruit aussi. Alors, le premier jour, vous allez dire, ah mince, il faudra 5 minutes de plus, en effet, pour faire la petite tartine, sortir la compote, etc., que mettre le paquet de céréales. Mais il faut le faire, voilà. C'est pas votre faute, hein. On vous a dit qu'il fallait manger des céréales. Mais il faut changer ça.
Donc voilà, c'est pas votre faute, c'est sans doute pas la solution la plus satisfaisante, mais c'est la seule malheureusement qui se présente à nous, citoyens, citoyennes, pour le moment. Il nous reste juste quelques minutes pour terminer avec un mot sur cet ouvrage dont vous avez coordonné la publication, Antitoxique, le guide des polluants cachés. C'est publié aux éditions Albin Michel et c'est arrivé en librairie le 8 avril. On en dit rapidement un mot de ce livre.
Il est important parce que donc ça vous donne les recettes pour agir. D'abord, très facilement, il y a quelques éléments scientifiques, mais alors hyper simples, justement, pour vous dire, ben là, il y a ça, il y a ça, et la recette, les conseils. Et donc, c'est des paragraphes extrêmement courts de vos activités quotidiennes. Donc, je vais à l'école, je fais du sport, je mets mon enfant à la crèche, qu'est-ce que je dois demander à la crèche, je mets un aîné à l'EHPAD, qu'est-ce que je dois demander à l'EHPAD, et puis, ce qu'il y a dans votre maison. Donc, on est un peu intrusif, hein, on va dans votre cuisine, on va dans votre chambre, on va dans votre garage et on vous dit ben, ce qu'il faut surveiller très simplement et vous dit les petits gestes. Chaque petit geste réalisé, alors je donne l'exemple, par exemple, demain, ne faites pas chauffer votre nourriture dans un contenant en plastique parce que des éléments du plastique qui passent déjà à froid passeront encore plus à chaud. Et bien ça, rien que ça, c'est une première victoire. Achetez des pommes bio locales qui ne sont pas plus chères. Chaque petite victoire est positive et vous devez être content de vous faire du bien, de faire du bien à votre famille, à vos enfants. Et puis, quand vous allez remporter une victoire, ben, vous allez en vouloir d'autres. Et puis, petit à petit, ben, vous ferez des petits gestes simples qui vous protégeront. Et du coup, ben, vous serez en meilleure santé.
Et est-ce que vous estimez que c'est un combat difficile et puis peut-être sans fin d'expliquer aux citoyens, aux citoyennes que des aliments bons au goût, en tout cas, qui sont séduisants, qui sont peu margés en magasin et puis qu'on voit passer à longueur de journée sur nos écrans de téléphone via des publicités, que ces produits nous, finalement, nous volent des années de vie, en fait.
Ben, quand je vois que à l'heure de grande écoute, vous avez la famille dans la voiture, il y a un bruit terrible et puis d'un coup, c'est merveilleux, tout va bien et les enfants mangent des frites et un burger. À 20h, bon, en Angleterre, ils ont supprimé là aux heures de grande écoute les publicités pour la malbouffe, hein, pour les aliments transformés. Donc bien sûr, on est tellement formaté, mais il faut prendre soin de soi. Hubert Reeves, avec qui j'ai fait la préface d'un livre, le grand astrophysicien, je lui demandais s'il était optimiste ou pessimiste pour l'avenir. Il me dit « je suis ni optimiste ni pessimiste, mais je suis déterminé ». Donc si j'ai un message à vous dire, c'est soyez déterminé et prenez soin de vous.
Merci beaucoup Pierre Souvet.
Merci à vous.
Et donc, pour répéter le message et puis résumer un peu grossièrement, pour réduire son exposition au cadmium, auditeur, auditrice, vous notez, on le redit, plus de bio, mollo sur les abats et les fruits de mer, moins de blé et de pommes de terre à remplacer plutôt par du seigle côté céréales, mais aussi des légumineuses, pois chiches, lentilles et compagnie, et en produit numéro 1 à virer de ses placards, j'ai nommé les céréales du petit-déj. Thank you. l'instant, c'était la chanteuse et musicienne française Laura Cahen avec le titre « Fusée », un extrait de son troisième album intitulé « De l'autre côté » qui est sorti en 2025. Un nouvel EP, 5 titres, est d'ores et déjà attendu d'ici quelques semaines. Side by Side, c'est son nom. Et puis pour les Parisiens, Parisiennes qui peut-être nous écoutent, Laura Cahen jouera au 104 à Paris, donc les 21 et 22 avril, c'est tout bientôt. Vous écoutez l'émission Vers des Terres sur Canal B, Radio Boa, ou peut-être en podcast, puisqu'on nous retrouve sur Deezer. Ça dépend donc de l'espace où vous êtes installé et branché. On va passer maintenant au reportage de l'émission et on prend la direction de Châteaubourg, une commune à l'est de Rennes, pour rencontrer deux adhérents du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Le premier adhérent, c'est l'un des fondateurs, Michel Bénard. Le second s'appelle Jean-Paul Renaud, il est paysan à la retraite et malade des pesticides qu'il a utilisés dans le cadre de son travail. Alors que plusieurs reculs environnementaux ont été annoncés en France mais aussi en Europe et que d'autres se profilent encore pour autoriser le modèle agricole productiviste à creuser encore un peu plus alors qu'il a touché le fond, je vous propose d'écouter les combats de Michel et Jean-Paul. Par ailleurs, une tribune a été publiée par le collectif sur Mediapart début avril. Qui veut faire taire les victimes des pesticides ? C'est la question qui est posée face à un phénomène préoccupant, à savoir des attaques systématiques qui visent celles et ceux qui osent témoigner publiquement de leur parcours de victime des pesticides.
Le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest a démarré en 2015. Michel Bénard. Donc je fais partie du collectif et s'est constitué en tant qu'association en 2016 suite à l'affaire Triskalia. Des salariés ont été intoxiqués par un pesticide interdit sur le lieu de travail par l'utilisation d'un insecticide interdit à cette époque-là, en 2010, sur du stockage de céréales, suite à quoi ces salariés ont été rendus malades et considérés comme inaptes pour leur travail et licencié, voilà. Qui m'a amené, enfin avec ma femme, à nous engager sur ça. Bah, d'une part, on est à la retraite, donc à la retraite, on a plus de temps. Quand on est à la retraite, on est libre de sa parole aussi. Depuis qu'on a des enfants, on mange bio. Aussi, on s'est toujours battu contre l'injustice et cette affaire de Triskalia, ça nous avait choqué. Donc c'est l'ensemble de ça qui nous a amené à nous engager. Puis après, c'est le doigt, le pouce, la main, le bras. Et puis après, la tête, c'est tout qui est pris dans l'engrenage. Voilà. Alors, d'adhérents.
Adhérents, oui.
L'année dernière, le chiffre très précis, en 2025, c'était 753 adhérents. Après, il y a des gens qui adhèrent par soutien, il y a des gens qui adhèrent parce qu'ils sont malades, d'autres parce qu'ils veulent s'engager. Il y a tous les niveaux d'engagement dans l'asso, comme dans toutes les assos. Concrètement, l'action de l'association, c'est d'abord d'accompagner tous les professionnels qui ont utilisé dans le cadre de leur activité des pesticides et qui ont des maladies reconnues comme étant liées à l'utilisation de ces pesticides. C'est un accompagnement d'abord d'ordre, administratif, c'est de faire connaître le tableau. Donc les maladies qui sont reconnues comme étant professionnelles, c'est Parkinson, les lymphomes, les myélomes, leucémie lymphoïde chronique, cancer de la prostate, leucémie aiguë, myéloïde ou lymphoïde, les cancers du sang, ainsi que d'autres maladies qui sont reconnues, pas officiellement, mais qui sont acceptées, comme les tumeurs ou la démence à corps de Lévy. Donc nous, c'est les gens qui nous contactent par le bouche à oreille ou parce que leur médecin. Donc c'est effectivement un accompagnement administratif pour faire les démarches parce que il faut dire que la mutualité sociale agricole n'informe pas ses cotisants de ce droit et n'accompagne pas dans cette reconnaissance. Les gens doivent se débrouiller tout seuls. Donc nous, on fait ce travail d'accompagnement jusqu'à l'obtention d'une rente financière. En même temps, on rencontre les gens, on va chez eux, on fait des réunions, on fait des pique-niques. Il y a beaucoup de liens sociaux, de relations humaines qui sont créées autour de ce combat. Et avec le temps aussi, beaucoup de gens qui sont malades, la maladie elle tombe sur n'importe qui. Personne n'est forcément militant à l'origine, mais les rencontres se déroulant, de plus en plus de gens ensuite témoignent de leur maladie auprès de leurs collègues, auprès du public, pour faire connaître aussi que cette conviction qu'il faut que les pesticides, ça s'arrête.
Jean-Paul Renaud, donc je fais aussi partie du collectif, mais moi en tant que victime des pesticides, paysan retraité. Alors moi, je suis arrivé parce que j'étais malade et puis que j'ai rencontré Christian Joux, qui était un des piliers, hein, un des pionniers et piliers.
Qui est décédé il n'y a pas longtemps.
Il y a un an. Toute ma carrière de paysan, j'ai mis d'autres combats, quoi. Mmh. Je me suis dit que celui-là, oh, c'est quoi un combat perdu d'avance, hein. J'en ai marre des combats perdus d'avance. Donc j'étais pas chaud pour et bien que j'étais reconnu malade, hein, mais j'avais pas fait la démarche et puis je me sentais pas prêt de la faire, quoi. Et puis je voulais pas faire ça, c'est peut-être un peu dommage, je voulais pas faire ça pour de l'argent, quoi, pour chercher la rente. Et puis après on évolue parce qu'on rencontre d'autres gens. Ça c'est Michel qui m'a convaincu. Il m'a dit mais tu sais, plus ça coûtera cher la MSA, plus ils bougeront. Si ça leur coûte pas trop cher, ils font un calcul, hein. Bénéfice-risque. Voilà. Donc là, je me suis dit, bon, allez, j'y vais cette fois-ci.
Et c'était quand
Oh, ça fait 3 ans à peu près. It's a numbers game. Ignoring all the combat. J'ai eu la prostate en premier. Ça fait 5-6 ans que je suis reconnu, pas reconnu malade. J'étais malade, mais j'étais pas reconnu. Bon, moi, j'ai peut-être la chance d'avoir un cancer. Qui évolue très lentement. Donc, pour l'instant, ils ont décidé de ne rien faire. Parce que ces choses-là, comme ils disaient, plus moins on y touche, mieux ça se passe. Mais j'ai eu aussi d'autres problèmes de santé. Une amylose à transthyrétine. Et depuis peu, je connais le diagnostic de la deuxième. C'est une hydrocéphalie à pression constante. C'est l'augmentation du volume du
liquide céphalo-rachidien.
Ouais, céphalo-rachidien. Qui met de la pression.
Donc des maux de tête et des...
Même pas, non. Troubles de la marche, troubles de l'équilibre et troubles urinaires. J'ai 3 maladies différentes et j'ai toujours eu beaucoup de confusion entre les 3. Mais de lien, on ne sait pas.
Pas facile à savoir.
Donc, je prends qu'un seul exemple, hein, l'incontinence. Bon, on me disait que c'était dû à la prostate. Maintenant, on me dit que c'est à la...
L'amylose ?
Non, pas l'amylose, l'autre.
L'autre, là, la troisième maladie dont souffre Jean-Paul et dont on a eu du mal à retrouver le nom, c'est l'hydrocéphalie à pression constante.
Le lien a rapidement été fait avec votre profession ?
La prostate, je l'ai fait parce qu'on est quand même entouré de gens qui ont des cancers de la prostate, dont certains reconnus en maladie professionnelle, etc. Puis je sais comment j'ai travaillé. Hein. Parce qu'au début, où on avait des produits qui étaient peut-être moins agressifs qu'aujourd'hui, mais on prenait encore moins de précautions. C'était évident que j'avais été au contact de ces produits-là. Et...
Mais il n'y avait aucune conscience des
aucune...
risques.
Ah non, aucune... Et pourtant, j'étais un militant. J'ai du mal à m'expliquer.
Les coopératives, les vendeurs, les chambres d'agriculture, personne ne disait que... Au contraire, il fallait utiliser... Ce n'était pas possible d'être agriculteur sans utiliser de pesticides. Vous ne pouviez pas vivre sans ça.
C'était pas dangereux, qu'on pouvait traiter les bords de cours d'eau, quoi. Et ça n'avait aucune conséquence sur la qualité de l'eau. Alors moi, j'étais éleveur laitier, donc un peu de maïs, beaucoup d'herbes, et un petit peu de céréales. Quoi. C'était un mix de tout ça. Et puis, on était engagés dans tellement de luttes à côté.
Ouais, c'était plus des luttes pour le revenu.
Ouais, c'était pas des luttes pour notre santé.
Ni pour l'environnement.
Non, encore moins pour l'environnement.
L'exploitation était en conventionnel tout du long ?
Pas tout le long, puisque début des années 90, on a commencé à réfléchir un petit peu à la façon dont on travaillait. Enfin, on, tous les deux, et puis avec d'autres gens. Hein. C'était une asso pour être plus autonome sur les fermes. Et là, pour être plus autonome, on s'est rendu compte que il fallait déjà utiliser moins de produits, de faire plus d'herbes. Après, on se côtoie avec beaucoup de gens, on se rencontre, on discute, et puis dans les groupes, il y a qu'un premier qui tombe malade, quoi. Et ainsi de suite, comme ça. C'est comme ça, c'est la prise de conscience, moi, c'est comme ça que je l'ai eu. Donc, moi, je me suis dit, évidemment, on a mal bossé, quoi. Donc, faisons en sorte de faire une agriculture plus propre.
Il y a des choses dans votre quotidien ou dans votre vie plus généralement dans lesquelles vous vous sentez limité ou empêché par ces problèmes de santé ?
Ah bah oui, maintenant, oui, je suis très très limité physiquement. Hein. Ma passion, moi, c'était le vélo, donc les belles lurettes que je fais plus de vélo. Hein.
Et toi, c'est surtout en termes de mobilité que tu es handicapé, quoi. Ouais.
Je suis en colère contre les gens qui tiennent debout le système. Parce qu'eux, ils ont les connaissances aujourd'hui que nous, on n'avait pas à l'époque.
Bien sûr. Nous, on dit c'est criminel.
Oui.
Parce qu'eux, ils savent et ils ont laissé des gens s'empoisonner. Ils ont homologué des produits qui rendent malade et qui tuent. Donc, autoriser ça, ben, c'est participer à un crime. C'est pas autre chose.
Oui, oui. C'est pour ça que moi, je trouve que je ne me sens pas coupable d'avoir travaillé comme ça. Je ne dis pas que c'était bien, mais je ne me sens pas coupable. C'est comme ça que la légitimité d'essayer d'obtenir une rente, elle se justifie là.
Pour nous, notre raisonnement en tant qu'association, c'est de dire plus il y a de gens qui font la démarche de la reconnaissance et qui sont reconnus, officiellement, puisque c'est le résultat d'analyses scientifiques, médicales, de statistiques, etc. Plus il y en a qui sont reconnus, plus on rend visible le fait que ces produits-là rendent malades et tuent des gens, quoi.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs,
possiblement, les tableaux, je pense, peuvent évoluer dans les années à venir.
Ah bien sûr, oui, oui, oui. Là, on sent, au travers de notre association et d'autres associations, que les victimes des pesticides commencent à apparaître comme une force. C'est plus des cas individuels, ça devient un fait de société. Et des organisations telles que la FNSEA, beaucoup de chambres d'agriculture, ils sont mal à l'aise face à ça parce que ils peuvent pas critiquer leurs propres anciens adhérents de faire du mauvais esprit. Depuis 11 ans, on va dire maintenant, c'est je crois 300 personnes qu'on a accompagnées jusqu'à la reconnaissance. Ce qui représente, comme des gens peuvent avoir une, deux, voire trois maladies, ça doit faire 330 maladies qu'on a accompagnées. Les demandes ont vraiment explosé. Il y a trois ans, on avait trois, quatre demandes maximum par mois. Maintenant, c'est 12, 15 par mois, personnes qui nous contactent. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus, en particulier d'agriculteurs, qui sont au courant de l'existence de ces tableaux de maladies professionnelles liées aux pesticides. Sans doute le corps médical est aussi plus informé. Les pesticides, c'est un sujet clivant dans les familles. Et ça veut dire que dans le milieu agricole, quand même, les gens finissent par accepter de reconnaître que ces produits-là, qu'ils ont pu défendre, qu'ils ont considérés comme indispensables pour faire leur métier d'agriculteur, ça peut être ces produits qui les ont rendus malades. Sur les gens qui sont reconnus, on va dire que c'est 85-90% de paysans. Pour le reste, ce sont des salariés de coopératives. C'est 90% aussi d'hommes, mais on a de plus en plus de femmes aussi pour lesquelles on obtient la reconnaissance. Les femmes n'ont pas forcément conduit le pulvérisateur. Les produits, ce n'est pas que celui qui les a vraiment manipulés, c'est toute la famille qui peut être impactée. Et puis quand on dit soutien aux victimes des pesticides, c'est à toutes les molécules chimiques, parce que dans une salle de traite, il y a des détergents très virulents pour nettoyer les tuyauteries, la salle de traite. On utilise des produits anti-mouches qu'on pulvérise autour des vaches. Ceux qui sont dans des poulaillers ou des élevages porcins, eh ben à chaque fois qu'une bande de cochons ou une bande de volailles part, on désinfecte tout, avec des produits également agressifs. Dans un poulailler, on met de la paille broyée qui était chargée en pesticides. Ça développe des poussières, on respire ces poussières. Au-delà des pesticides, ceux qui sont dans des bâtiments d'élevage en amiante. L'année dernière, on a fait reconnaître deux personnes pour des cancers pulmonaires liés à l'amiante, du fait des bâtiments qui ont un certain âge, qui se dégradent avec le temps.
Moi, j'aimerais j'ai peut-être une dernière question à savoir de vous faire réagir sur les retours en arrière qu'on observe avec cette tentative de faire passer là, un peu au forceps la loi Dupont dans une deuxième version.
Vraiment, la période qu'on vit actuellement, pour nous, elle est très, très critique et incompréhensible de voir les reculs qui sont en train de s'opérer. On a eu la loi Dupont 1, donc, qui a créé une mobilisation vraiment inattendue et bienvenue de plus de 2 millions de personnes, pas seulement pour l'acétamipride, mais pour la suppression des normes de limitation, par exemple des élevages industriels, des protections sur l'eau et tout ça, de la réintroduction de nouveaux pesticides. Il y a la loi Dupont 2 qui se profile, c'est complètement incompréhensible. La loi d'urgence orientation agricole qui va permettre d'autoriser ad vitam aeternam jusqu'à présent. Toutes les molécules peuvent être remises en cause au bout d'un certain nombre d'années. Là, ce sera ad vitam aeternam. Au niveau de l'Europe, il y a le processus qu'ils appellent Omnibus, qui risque de nous enlever beaucoup d'arguments juridiques qui nous permettent de contester les effets délétères des pesticides sur la santé et l'environnement. Et ici, localement, notre bagarre sur le sage-vilaine.
Donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Des eaux, oui, qui est donc géré parce que la gouvernance, c'est ce qu'on appelle la clé. Commission locale de l'eau, qui est une commission qui réunit des élus, les services de l'État et des associations. Eh bien, puisque ce nouveau schéma d'aménagement qui aurait dû être voté avant les municipales apportait quelques améliorations, entre autres l'interdiction d'herbicides autour de certaines aires d'alimentation de captage. La FNSEA et la coordination rurale en ont fait une question de principe. On ne cède rien. Et avec le soutien actif du préfet de Bretagne, ils ont réussi à empêcher la validation de ce schéma qui pourtant avait remporté plus que la majorité au cours d'une consultation publique. Enfin, c'est vraiment un déni démocratique, quoi. Et c'est assez ahurissant et inquiétant ce qui est en train de se passer pour la santé et la biodiversité, notre environnement à tous et l'avenir de nos enfants et de petits-enfants. To have a say, gotta win the race, just win the race to lose control.
J'ai pas de cerveau. J'ai pas de cerveau. Les grenouilles tricotent des chapeaux invisibles pour les nuages mélancoliques qui jouent du piano sous l'eau. J'ai pas de cerveau. Les girafes cosmiques organisent des tournois de ping-pong avec des étoiles filantes pendant que les licornes jonglent avec des arcs-en-ciel. Les pingouins diplomatiques discutent de la météo intergalactique avec des sandwichs volants dans un univers parallèle de confettis.
J'ai pas de cerveau. J'ai pas de cerveau.
Je comprends rien à ce que tu dis.
J'ai pas de cerveau.
Ah ouais, t'as pas fait Stanislas toi. T'es pas non plus le couteau plus aiguisé du tiroir. T'es de la campagne,
j'ai non. J'ai pas de cerveau.
T'as un cerveau, c'est sûr, la science tu sais utiliser. On demande pas d'être Einstein, mais fais un effort quoi.
J'ai pas de cerveau.
Sors-toi les doigts du cul. Traverse la rue, trouve-toi du boulot. C'est simple non? Comment j'ai fait moi? Moi j'ai tellement bossé,
j'ai
repris la boîte de papa. C'est ça le mérite. Quand on veut on peut. C'est à cause des mecs comme toi qu'il y a du chômage. On est pas dans le même monde mon gars. Je ne céderai rien au fainéant. En même temps, on est en guerre.
J'ai pas de cerveau. J'ai pas de cerveau.
Ok. Tu veux que je tienne un discours politique? Je demande le droit universel de porter des
des chapeaux en forme de pizza le vendredi pour célébrer l'unité mondiale à travers la passion pour des fromages et des toppings variés. Revendiquons le droit fondamental de remplacer tous les feux de circulation par des bonnets magiques qui changent de couleur en fonction de leur humeur pour une circulation plus joyeuse et émotionnelle. Réclamons le droit de célébrer chaque anniversaire en remplaçant tous les transports publics par des tapis volants pour une journée de magie et de transport aérien gratuit. Exigeons le droit de créer un comité mondial pour élire le meilleur danseur de flamand rose chaque année afin de promouvoir la grâce aviaire.
J'ai pas de cerveau.
Pas de cerveau, c'est le morceau que vous venez d'entendre, signé Droge, une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann Barbotin, programmateur musical de la radio associative rennaise Canal B. Alors Droge, c'est la fusion de la Drôme et des Vosges, un mélange de techno radical et de textes tranchants. Leur premier album, il est sorti à l'automne 2025 et s'appelle « Tout ça, on crame ». On arrive à la fin de l'émission Vers des Terres, mais il nous reste encore quelques minutes pour une recommandation de ressources. À chaque fois, ce sont des conseils de choses à lire, à écouter, parfois d'événements à vivre aussi. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du dernier épisode de « Et parfois, on gagne ». C'est un podcast à retrouver chez Arte Radio, qu'on aime beaucoup, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et qui a été lancé en septembre 2025 par Claire Richard, Victoire Tuyon et Bertrand Guillot, qui sont tous et toutes gens de radio, auteurs, romanciers pour certains. Comment dégager un mini-Trump? Comment faire la paix sans faire l'amour? Comment inventer le meilleur système de santé au monde? Ou encore fracasser les vitres pour être entendu? Chaque épisode d'une vingtaine de minutes raconte une lutte passée pour éclairer et outiller les résistances actuelles. C'est comme ça que le média Socialterre présente le projet. Le dernier épisode, qui a été publié fin mars, nous raconte cette fois comment ralentir la déforestation avec un bébé. Et on s'envole pour le Brésil, où le peuple autochtone des Munduruku est confronté sur son territoire tant aux chercheurs d'or qu'aux multinationales, aux bûcherons et autres escrocs. Ce peuple, il a quand même réussi à arracher plusieurs victoires. Un projet de méga-barrage bloqué, un projet minier abandonné, et puis en 2024, après 17 ans de combat, une partie de leur territoire reconnue Terra Indigena, c'est la plus haute protection légale au Brésil. Leurs armes ? Des panneaux fabriqués à la main pour délimiter eux-mêmes leur territoire, un protocole de consultation qu'ils ont rédigé pour imposer leurs règles aux autorités, des caméras pour documenter chaque exaction et puis des gestes symboliques forts, capables de capter l'attention du monde entier. Notamment lors de la dernière COP sur les changements climatiques, c'était la COP 30, en novembre 2025 à Belém. Extrait.
Quand Andrea Correa, le président de la COP, arrive enfin, l'une des femmes Munduruku lui tend son bébé, à la tête enturbanée de fleurs rouges vives. Imaginez la scène. Le diplomate en veste et chemise, qui prend l'enfant dans ses bras, pris de court, et qui parlemente avec sa mère, sous les caméras du monde entier. Un geste symbolique fort, comme l'explique Alessandra Korap Munduruku, l'une des leaders de ce peuple.
That child represents the future of the Munduruku people.
Cet enfant représente l'avenir du peuple Munduruku. Et Andrea, s'il mène à bien ce projet, si le gouvernement du Brésil décide de mettre en œuvre ces projets sans écouter la nation Munduruku, il détruit l'avenir de cet enfant qu'il a tenu dans ses propres bras. Donc il assume la responsabilité de cette vie et de la vie de tous les enfants Munduruku.
Vous retrouverez l'intégralité de l'épisode 8 du podcast « Et parfois, on gagne » en ligne sur arteradio.com. On précise qu'en fin d'épisode, on y entend la voix de Martin Lena, chargé de plaidoyer pour l'association Survival International. C'est une ONG qui défend les droits des peuples autochtones. C'était le 7e épisode de Vers des Terres, j'espère que ça vous a plu. Vers des Terres, c'est une émission réalisée bénévolement et à écouter chaque mois sur Canal B, à Rennes, Radio Boa, à l'échelle de la Bretagne, et puis aussi en podcast, notamment sur Deezer. On se retrouve en mai, le 15, vendredi 15, pour la diffusion rennaise, en tout cas du côté de Canal B, pour prendre le large, je vous en dis pas plus. D'ici là, prenez soin de vous, envers et contre tout, salut.